BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto, nouvelle session de questions-réponses aujourd'hui avec mes invités Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane.
Sandra.
Et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo.
Bonjour Sandra.
On va répondre aux questions que vous nous avez posées sur notre adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous êtes les bienvenus sur cette boîte mail. Vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant les cryptos. On y répond toutes les semaines entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, les questions, nos réponses, c'est parti. Avec une première question de Dominique. On n'avait pas eu le temps de la faire la dernière fois, celle-là, Enzo. Alors Dominique nous dit qu'il envisage d'acheter un ETN Bitcoin et un ETN Ethereum, qu'il a demandé à l'IA de sélectionner deux ETN avec 0% de frais. L'IA lui a trouvé CoinShares Bitcoin ETP avec un code ISIN qu'on ne dira pas, hein, parce que c'est très compliqué, et CoinShares Ethereum Staking ETP avec un autre code. Mais Dominique se méfie un peu de l'IA. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de frais sur ces deux ETN? Si vous avez d'autres suggestions, elles seront les bienvenues. Et il rajoute il n'est pas passé par un courtier, mais par sa banque, depuis son application sur son smartphone.
Et oui, alors ce qui me rassure, c'est que pour le coup, les conseillers ont encore une petite longueur d'avance, puisque l'IA, pour le coup, c'est pas complètement planté, mais effectivement, il y a des frais, et en fait, ce n'est pas possible qu'un ETN ne puisse ne pas avoir de frais. Alors
D'accord.
Déjà, qu'est-ce qu'un ETN? Absolument bien différencier un ETF d'un ETN. Alors, ça fait partie des ETP, Exchange Traded Product. Un ETN, c'est une note et donc une créance. Un ETF, c'est un fonds et donc vous allez détenir l'actif. Donc la grosse différence, c'est que lorsque vous possédez un ETF, vous possédez indirectement l'actif sur lequel cet ETF est investi. Quand vous achetez un ETN, vous détenez une créance et la banque vous doit la performance liée à ce produit. Et donc vous détenez de la dette. La grande différence, c'est quoi? C'est que en cas de faillite de l'émetteur, en l'occurrence de cet ETN, s'il fait faillite, je perds mon investissement puisque je détiens la dette de cet établissement. Si je détiens un ETF, ils détiennent la contre-valeur en actifs numériques et donc je pourrais être remboursé. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, personnellement, pas toujours très fan des ETN, attention. En plus du risque de marché, on rajoute un risque de faillite de l'émetteur. Donc, en ce qui concerne les deux ETN, CoinShares Bitcoin ETP est à 0,15% de frais par an. Alors, tout simplement parce que, comme je vous disais, c'est impossible de ne pas avoir de frais. Concernant, en revanche, celui sur Ethereum, il est lié à du stacking. Et en fait, là, le petit tour de passe-passe qu'ils nous ont fait, alors si je peux le dire, c'est tout à fait légal, mais ils ont en fait induit les rendements du stacking dans les frais. C'est-à-dire que vous n'avez effectivement pas de frais lorsque vous investissez dans cet ETN, mais vous n'aurez pas la performance complète liée aux revenus du stacking, puisqu'ils prélèvent directement les frais dans ces revenus de stacking. Donc voilà, vous payez quand même toujours des frais.
Voilà la réponse, Dominique. Vous avez bien fait de poser cette question sur notre adresse mail crypto@bfmbusiness.fr. Une question d'Olivier. Il y aura deux Olivier aujourd'hui, Morgane, je vous préviens. Il nous dit qu'il a loupé notre émission avec Alexandre Stachenko, mais qu'il se rattrape avec le replay YouTube. Très bonne occasion pour moi de vous dire qu'effectivement, vous pouvez revoir toutes les émissions sur YouTube. Je voulais savoir si Bitstack a bientôt l'intention d'intégrer sa CB à Google Pay ou Apple Pay. Pour une entreprise comme Bitstack, je trouve dommage que ce ne soit pas encore le cas.
Oui, j'ai parlé avec Alexandre Tchatchenko et il m'a confirmé que le 1er juillet, il y aura bien le lancement de la carte officielle pour tous les résidents français. Ça va leur permettre non seulement de faire un arrondi gratuit, mais aussi de recevoir un cashback d'1% en Bitcoin sur tout leur achat. Et ils ont évidemment l'intention de pouvoir ajouter Apple Pay, Google Pay, tous ces services à cette carte. Donc, ça va arriver prochainement.
Oui, exactement. Effectivement, il y a des annonces de Bitstack régulièrement sur cette émission. Il faut laisser un peu de temps aux technologies de se mettre en place. Mais vous voyez, Olivier, ce sera bien le cas. Lisa vous demande, Enzo, coucou l'équipe crypto, Never Less a obtenu sa licence MiCA auprès de la banque de Lettonie. Est-ce que c'est safe de laisser mes sous sur leur appli?
Alors, j'aurais envie de vous dire que normalement, l'ensemble des pays de l'Union européenne devraient avoir le même processus à l'obtention de cet agrément MiCA. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Certains pays délivrent visiblement plus facilement certains agréments MiCA, comme Chypre, comme la Lettonie notamment. Alors, malheureusement, je ne peux pas dire que tous ces agréments se valent, puisqu'il sera effectivement plus simple d'obtenir un agrément en Lettonie qu'en France. Mmh. Donc, ce que je dirais, c'est que ça va dépendre du montant. Si vous souhaitez investir 1 000, 2 000 euros, bon, effectivement, ça reste un montant important, mais si vous le perdez, ce ne sera quand même pas la fin du monde. Si vous êtes en centaines de milliers d'euros, je ne pense pas que héberger votre argent et aller sur un acteur letton vaille vraiment le coup, et pourquoi pas aujourd'hui plutôt rester en France, puisqu'on a différents acteurs. L'AMF a notamment accéléré sur le fait de délivrer plus d'agréments MiCA récemment. On est à peu près à plus d'une quinzaine maintenant aujourd'hui sociétés. On était encore à 5 il y a quelques semaines. Donc
oui,
ça accélère. Il faut attendre encore un petit peu. Il nous reste encore un mois. Pas se précipiter. Donc je dirais, voilà, pour arbitrer en fonction du montant. Si c'est un petit montant, aucun problème. Si c'est un plus gros montant, ben, on pouvait même laisser un petit peu sur Nevelès et puis aller diversifier sur d'autres plateformes afin de diversifier votre risque en termes de support, en termes de placement.
Oui, exactement. Ça offre des garanties différentes. Et c'est vrai que MiCA, pour les acteurs français qui l'ont, c'est une bonne marque, quoi qu'il arrive, pour continuer votre activité. Martin vous demande, Morgane, quelle est la différence entre un portefeuille de type froid et un portefeuille de type chaud ? On a souvent cette question qui revient dans cette émission.
Tout à fait, je suis désolée, je perds un petit peu ma voix, mais voilà, je vais répondre à la question avec grand plaisir. Alors en fait, peut-être avant de parler de ce qui distingue le portefeuille froid du portefeuille chaud, eh bien je peux parler de ce qui les relie un petit peu. De manière générale, quand on veut être 100% propriétaire de ses actifs et qu'on veut être dans une optique de self-custody, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait regarder des portefeuilles. Ça permet d'être 100% propriétaire de ses actifs sur la blockchain. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'être propriétaire en fait de vos clés privées. Et quand on est dans cette découverte, et j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont des cryptos aujourd'hui et qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être 100% propriétaire de vos actifs, je trouve que c'est toujours pertinent, que ce soit sur une partie de votre portefeuille ou même la totalité de votre portefeuille. Et là, vous allez vous intéresser au portefeuille. Alors, il y a deux grandes familles. La première famille, c'est un portefeuille de type chaud. La deuxième famille, c'est un portefeuille de type froid. Alors, on pourrait se demander pourquoi ces termes-là. Alors, en anglais, hot wallet, ça veut dire qu'en fait, c'est un portefeuille qui est connecté sans arrêt à Internet. C'est pour ça qu'on dit qu'il est chaud. Alors qu'un portefeuille de type froid, c'est un portefeuille qui va justement garder vos clés privées de manière offline. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc en fait, dans le premier cas, alors attention, les deux sécurisent vos actifs. Oui. Ça, il faut quand même le spécifier. Mais c'est vrai que le niveau de sécurité n'est pas du tout le même. Dans le premier cas, pour le hot wallet, alors on peut penser au MetaMask, on peut penser au Rabi wallet, on peut penser au Phantom wallet. Et bien là, comme je suis 100% connectée à Internet sans arrêt, j'ai beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes que sur un cold wallet. Alors, juste pour spécifier le cold wallet, il peut être intéressant aussi de l'acheter sur la boutique principale. Donc, il ne faut pas, par exemple, l'acheter sur Amazon ou autre. Ça, c'est quand même important de le spécifier également.
Oui, effectivement, voilà. Même sur Ledger, tout ça. Enfin, il y a quand même des procédures à respecter. À partir du moment où vous avez décidé de prendre un portefeuille comme ça, notamment un froid, il faut bien le faire avec les bonnes règles et les bons sites. J'en suis où ? Une question pour vous, Enzo. C'est Gérard qui nous demande. Je souhaiterais investir dans les cryptos, mais j'aime pas le concept de spéculer. Certaines cryptos sont-elles des investissements à long terme, Enzo ?
Alors, j'aime beaucoup cette question. Ouais. Effectivement, c'est toute la différence entre un trader et un investisseur, en fait. Donc, il va y avoir plusieurs éléments de réponse à votre question. Donc, tout dépend déjà comment on voit le marché. C'est-à-dire que la vraie question, c'est est-ce que cette blockchain va avoir une utilité et une économie viable dans le futur, sur 10 ans, sur 15 ans. Et donc, de comprendre son fonctionnement. Pour Bitcoin, ça va être une sorte d'or numérique, une réserve de valeur, un moyen de pouvoir compter également en unité de compte, de pouvoir faire des échanges, etc. On a une neutralité politique. Bref, il y a tout un tas de concepts à bien comprendre pour pouvoir se dire si effectivement c'est spéculatif ou si je fais un investissement. Si je prends l'exemple d'Ethereum, c'est de l'infrastructure qui va pouvoir me permettre de m'exposer à la tokenisation, au RWA, à la DeFi, à différentes choses. Et donc, à partir du moment où je vais rester investi, par exemple, un peu plus long, donc en termes d'horizon d'investissement, bah déjà, je vais être moins un spéculateur parce que je vais avoir compris le projet. Et puis, je vais avoir un horizon d'investissement qui va en fait me permettre d'être un investisseur. Donc, ce qu'on va distinguer généralement, c'est donc le rationnel. Est-ce que je fais un coup ou est-ce que j'investis parce que j'y crois et j'y reste ? Est-ce que j'ai un horizon d'investissement long ou court ? Est-ce que je me base sur le prix ? actuel de ce token ou est-ce que je me base sur son potentiel de croissance? Est-ce que c'est un effet de mode ou au contraire, est-ce que c'est un long trend ou un effet vraiment d'intérêt économique mondial? Ou encore, dans la gestion de mon portefeuille, est-ce que j'ai envie de faire des rotations régulières de mes jetons ou est-ce que j'ai envie de pouvoir justement avoir une activité à côté? Donc, si je dois résumer, ça va être à peu près ça. En revanche, on a quelques soucis sur les cryptos, c'est que certains projets sont par essence même spéculatifs. Je pense aux meme coins ou à ce genre de choses. Donc, c'est également le jeu de ce marché. Il y en a à peu près pour tout le monde. Donc, la première étape, je dirais, c'est de bien comprendre le jeton et en fait, ensuite, son profil d'investisseur. Si vous achetez pour vendre demain, quoi qu'il en soit, même si c'est sur un token de qualité, vous serez un spéculateur.
Oui, quoi qu'il arrive, je sais. Je me souviens de Claire Balva, il y a plusieurs années, qui m'avait dit « Le Bitcoin, c'est du très long terme, c'est du 10 ans. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on me demande des conseils sur pourquoi j'investirais en Bitcoin et si je veux le retirer dans un an, c'est la première question, c'est quand je le retire. Non, non. Si vous mettez dans Bitcoin, par exemple, vraiment, il faut penser très long terme, il faut l'oublier, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. C'est très important, par exemple, sur cette crypto-là.
Hein, c'est ça, exactement.
Une question pour vous, Morgane. C'est Anna qui nous demande si elle peut acheter des cryptos via ChatGPT.
Oui, tout à fait. Alors, la société App MoonPay a créé une application qui va être directement intégrée depuis ChatGPT. Ils ont décidé donc dans l'Apple, dans le store App, hein, vous pouvez retrouver maintenant sur ChatGPT l'application qui a été développée par MoonPay. Et ça permet effectivement de pouvoir faire des achats depuis ChatGPT. Alors, dans le concret, comment est-ce que ça va se passer? En fait, on va générer un lien de paiement dans la discussion avec Chat. Et ce lien de paiement va ensuite vous faire basculer vers l'application de MoonPay pour confirmer votre achat. Il y aura toujours le KYC à faire, donc Know Your Customer. Ça, c'est une étape qui est obligatoire si c'est votre première fois. Mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facilité puisqu'en fait, en un clic, eh bien, on peut acheter des cryptos depuis ChatGPT. Et l'expert blockchain qui s'appelle Kevin Harris de MoonPay a dit qu'en fait pour eux, aujourd'hui, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, eh bien pour eux ce sont des portes d'entrée parce que les gens font des recherches en fait financières et ils reçoivent des recommandations. Donc ça avait vraiment du sens pour eux, eh bien tout simplement d'être intégrés directement depuis ChatGPT. Et c'est vrai que les personnes font apparemment des recherches beaucoup plus approfondies que les recherches qu'ils pouvaient faire sur Google via ChatGPT, via Claude. Et donc en tout cas MoonPay est disponible dans l'App Store de ChatGPT.
Ça y est, il y a un pont qui s'est créé effectivement. Quand on voit en plus l'âge des investisseurs en crypto qui sont absolument leur premier recours, hein, c'est effectivement l'intelligence artificielle, ça paraît tout à fait cohérent. Il y a Ambre qui vous demande, Enzo, comment savoir si une crypto va monter ou s'effondrer?
Non, c'est alors du coup un peu en lien avec la question justement qu'on avait un petit peu avant.
Hein. Oui.
Il y a plusieurs, je pense, niveaux de compréhension à prendre. D'abord, le niveau macro, c'est-à-dire le token en lui-même, avec notamment ce qu'on appelle la tokenomics. Alors, on en parlait régulièrement dans les anciennes émissions, c'est-à-dire combien de jetons sont émis, à quel rythme ils vont être émis, à combien ils ont été émis, combien il y a eu d'investisseurs au départ, quelles sont la répartition entre l'équipe fondatrice, l'équipe marketing, ce qu'ils vont lâcher en airdrop, etc. Et donc, comprendre la manière dont doit évoluer le projet et sur le long terme. On va ensuite prendre en compte la qualité de l'équipe, est-ce qu'ils ont déjà créé des tokens, des projets qui ont fonctionné ou non, etc. On peut voir s'il y a de la concurrence. Typiquement, aujourd'hui, est-ce que j'achète Ethereum ou est-ce que j'achète Solana? Ça reste une question très intéressante. Est-ce qu'il faut que j'en achète un petit peu des deux? Lequel je surpondère? Ça fait partie des questions qu'en tant que gérant, on se pose régulièrement. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on va pouvoir retrouver on-chain. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver directement sur Internet. Et ensuite, je vais aller apposer à ça la vision macroéconomique, c'est-à-dire aujourd'hui, dans quelle direction on va au niveau géopolitique et quel va être l'intérêt de Bitcoin dans les années futures, typiquement. Et donc là, je vais prendre différentes autres grilles de lecture, comme les taux directeurs, typiquement, qui vont impacter généralement, lors de leur remontée négativement, le cours des crypto-monnaies, tout comme va être impacté le Nasdaq ou les actions tech. À l'inverse, quand les taux diminuent, vous avez un regain de souffle généralement sur les cryptos. Donc ça, ce sont vraiment des aspects macroéconomiques. Vous pouvez prendre également en aspect macroéconomique les flux ETF. Hein, vous pouvez voir directement parmi les institutionnels lesquels font rentrer le plus d'encours et le plus de volume. Ça donne des indicateurs. Et donc, récupérer un maximum d'indicateurs micro et macro pour se dire, encore une fois, est-ce que je crois dans ce projet? Est-ce que je pense qu'il y a une utilité? Est-ce que je pense que les gens vont l'utiliser? Est-ce qu'il y a un usage réel? Et en fonction de tout ça, généralement, ça peut marcher.
On rajoute que si on veut rester sur les cryptos classiques, on parle souvent ici, pour ne pas justement avoir le nez sur les cours et voir si ça s'effondre ou si ça monte, faire un DCA. Morgan aime beaucoup les DCA. On peut peut-être rappeler, Enzo, ce que c'est qu'un DCA, très rapidement, le principe.
Ouais, bien sûr, dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on va investir un montant prédéfini à l'avance sur des périodicités également prédéfinies à l'avance, donc 50 euros par semaine, 100 euros par mois, 10 euros par jour. Tout va dépendre de votre capacité à emprunter. Si je reviens juste rapidement sur la notion de pourquoi est-ce qu'on investirait, il y a d'abord peut-être un sens inverse, on peut se dire quels sont les red flags sur lesquels je vais surtout pas aller, par exemple. Et là, j'en ai noté trois, ça va être des rendements garantis, par exemple. Généralement, dans la finance, il n'y a pas de rendement garanti, hormis si ça a été déjà prédéfini, que ce sont des produits de type rendement garanti. Une tokenomics opaque, c'est-à-dire je ne sais pas quelle est la répartition auprès de ceux qui l'ont créé, et puis j'ai pas d'infos sur comment est-ce qu'elle va évoluer, etc., etc. Et puis, s'il y a beaucoup trop de marketing sans produit réel, c'est que c'est effectivement que du marketing et que là, bah, y a peu de valeur ajoutée généralement.
Observez, effectivement, regardez ces points. Ambre, si vous voulez regarder un petit peu comment évoluent les cryptos. Raphaël vous demande, Morgan, est-ce que, alors je formule comme il l'a mis, est-ce qu'une banque centrale européenne investit dans le Bitcoin ? Alors déjà, c'est la banque centrale européenne. Il y en a une ? Il n'y en a qu'une. On est bien d'accord.
Je pense qu'il a voulu dire peut-être une banque centrale d'Europe, finalement.
Voilà, exactement.
Et effectivement, on a, alors on ne s'y attendait peut-être pas, mais c'est la République tchèque. Ils ont décidé, en fait, de se lancer en fin 2025. Alors, c'est un portefeuille test $1 million. Ils se sont positionnés directement sur le Bitcoin, mais aussi sur des stablecoins. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils n'ont pas écouté les recommandations, justement, de la BCE.
Exactement.
Puisqu'on sait que Christine Lagarde n'est pas du tout ouverte à notre écosystème. Elle est même plutôt contre, elle le déconseille. Eh bien, ils sont quand même partis à l'aventure. Ils ont décidé de tester avec une somme, bon, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même déjà un premier pas dans la bonne direction. Pourquoi est-ce que la République tchèque a décidé de se lancer ? En fait, quand on s'intéresse à ce pays, on se rend compte que Prague, c'est un terrain qui est extrêmement fertile pour le secteur. Par exemple, vous avez une adoption qui est en pleine explosion, quand même, à Prague. Vous avez aussi une société qui est assez connue dans le monde, justement, des cold wallets que j'ai cité un petit peu plus tôt, Trésor. Trésor ne vient pas des États-Unis, ils viennent justement de Tchéquie. Et il y a aussi un événement qui est important pour la communauté de Bitcoin, c'est le BTC Prague. Et ça a lieu forcément à Prague. Donc finalement, ce n'est pas si étonnant que ça qu'il se soit lancé. On parle beaucoup du Bitcoin pour qu'il rejoigne les trésoreries d'entreprise. On parle de Bitcoin comme un actif aujourd'hui stratégique pour certaines réserves fédérales, nationales, de pays. Mais là, c'est la première fois qu'on a une banque centrale européenne qui se lance, et c'est la première, du coup, d'Europe. Et ça, c'est quand même significatif. Et ça fait écho à deux choses. La première, c'est qu'on parle souvent du fait que Bitcoin pourrait aller chercher le million. Avec un horizon 2030, on est beaucoup à le penser. Eh bien, une partie des personnes qui pensent que cette théorie, elle est correcte, il y a une condition sine qua non, et ce serait que les banques centrales achètent justement du Bitcoin. Mmh. Et donc, c'est pour ça que c'est un pas dans la bonne direction. Et ça fait aussi écho à ce que la plus grande banque d'Allemagne a dit, la Deutsche Bank. Ils ont dit que pour eux, le Bitcoin va venir rejoindre l'or dans les bilans officiels de nombreuses banques centrales d'ici, justement, 2030.
D'ici 2030, il y aura aussi un petit changement à la tête de la Banque Centrale Européenne. C'est le changement de tête, justement. Christine Lagarde, son mandat sera terminé. Elle est contre les cryptos, ça c'est clair. Elle a un projet d'euro numérique. Donc évidemment, ça rentre un peu finalement face à ces cryptos. Mais c'est peut-être ça qui va changer la donne et la politique, effectivement. Ça me donne envie de vous poser cette question. Bitcoin à 1 million en 2030, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé, c'est pour ça. On en pense quoi, là, à la mi-2026, Enzo ?
1 million, on est un peu haut quand même. Ouais. Je pense qu'un bon prix, ça resterait d'ici 4 ans. Si on compte qu'on aura encore un halving et demi, entre guillemets, ça amène normalement Bitcoin entre, je pense, 300 000 et 400 000, ça serait déjà un excellent prix.
Ça serait déjà un excellent prix,
x4, x5 par rapport à aujourd'hui. Après, moi, je ne regarde pas le prix nominal, en fait. Je regarde surtout la manière dont nos propres monnaies se dévaluent et la manière dont, fin de compte, on capitalise uniquement, même quand Bitcoin reste au même prix aujourd'hui. Donc, ça reste quand même un intérêt de diversification. Il ne faut pas trop s'attacher au prix, selon moi.
Oui, exactement. Arnaud vous demande, Enzo, j'ai investi 2000 euros en Ether via une société en Angleterre il y a 2 ans. Il me demande désormais des droits de douane pour avoir le droit de retirer mes cryptos, l'équivalent de 500 euros. Je trouve ça très cher et je commence à douter de leur bonne foi. Qu'est-ce que vous en pensez ? La société s'appelle blockchain.com.
Alors, ça, malheureusement, je l'ai eu vraiment depuis le début de ma carrière. au moins une bonne vingtaine de fois ce scénario. C'est-à-dire que blockchain.com n'est déjà pas une société. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de personne en face de vous pour pouvoir vous vendre des produits, etc. C'est malheureusement une arnaque, je peux vous l'assurer tout de suite. Il n'existe pas de droit de douane sur des transactions transfrontalières. Voilà, ça n'existe pas. Donc généralement, ce sont des excuses pour pouvoir vous permettre, enfin vous obliger de remettre au pot pour pouvoir essayer d'avoir l'espoir de récupérer votre investissement initial. Je l'ai vu, comme je vous dis, des dizaines de fois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces cas-là? Déjà, ça va être de témoigner auprès de l'AMF. Ils ont une adresse mail dédiée afin de pouvoir témoigner et éviter que d'autres personnes tombent également dans ce genre d'arnaque. Donc, ça permet également de sauvegarder un petit peu les autres. De porter plainte en gendarmerie, bien entendu, si vous souhaitez entamer des actions. Alors là, pour 2000 euros, malheureusement, je pense que ce sera un peu désuet.
Un peu vain, ouais.
Voilà. Et la troisième, c'est que vous avez des sociétés qui peuvent, dans certains cas, vous aider à récupérer une partie de cet argent. Donc, je pense notamment à Broker Défense, qui vont être là pour accompagner des personnes victimes d'arnaque afin de voir si, par exemple, les actifs sont on-chain et qu'ils sont visibles et donc on peut les repérer et in fine les suivre éventuellement, ou en tout cas mettre en place des procédures pour pouvoir vous aider à les récupérer. Alors c'est généralement très compliqué, hein. Donc, ça demande des pistes et je vous déconseille, dès que vous entendez droit de douane ou dès que vous voyez des sociétés, enfin normalement il est interdit de faire du démarchage crypto. Vous n'avez pas le droit de recevoir un coup de fil d'un conseiller qui vous dit je vous vends des cryptos et je vous conseille par téléphone. Ça n'existe pas en Europe, c'est interdit.
Après les droits de douane, il n'en a pas entendu parler avant d'être confronté à la situation de vouloir retirer effectivement son argent.
Effectivement, mais cette personne-là n'a probablement pas signé de KYC, comme a mentionné Morgane juste avant. Il n'a probablement pas signé de document lorsqu'il a souhaité faire son investissement. Il a probablement envoyé son argent sur un IBAN directement ou sur un portefeuille. C'est aucun processus qui aujourd'hui n'est réglementé. C'est très strict la manière dont on onboard les clients aujourd'hui. Donc, en fait, il y a malheureusement, un côté néophyte qui fait que, malheureusement, il est tombé dans le panneau, mais il y a, quand on s'intéresse un petit peu, des processus qui, normalement, donnent l'alerte tout de suite.
Et les processus d'inscription, par exemple, sur les plateformes qui sont agréées, tout ça peuvent vous paraître lourd, mais dites-vous, effectivement, que ce sont les mêmes procédés que pour les banques et que c'est de la sécurité, tout ça, à la base, au départ, pour éviter derrière, quoi qu'il arrive, ce genre de situation. Une dernière question d'Olivier qui nous demande ce que c'est que le projet Chainlink et à quoi sert le jeton, Morgane.
Chainlink, c'est un réseau d'oracles décentralisé. Et pour comprendre pourquoi est-ce que les oracles ils sont très importants aujourd'hui, il faut remonter à Ethereum. Avec l'avènement d'Ethereum, sont arrivées les applications décentralisées, mais aussi les smart contracts. Un smart contract, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui ne nécessite pas la présence des parties au contrat pour se résoudre et pour s'exécuter. Eh bien, je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Imaginons que vous voulez faire un pari sportif, un match de foot, par exemple Italie-France, où vous avez envie de parier des cryptos sur le fait que la France va gagner ce match de foot. Et si vous avez raison, vous allez peut-être gagner le double. Eh bien, le smart contract dans lequel vous avez fait votre pari sportif, il faut qu'il ait les données du monde réel. Quelle équipe a marqué? Qui a gagné? En réalité, les smart contracts, ils ont accès aux données qui sont on-chain, mais pas aux données du monde réel off-chain. Et c'est là où la magie de l'oracle, elle vient, parce que l'oracle, il fait le pont. Il fait le pont entre le monde de la blockchain et le monde du monde réel. Il va faire passer donc les informations. Et Chainlink, c'est un des plus anciens réseaux d'oracles décentralisés. Ils ont un jeton, c'est le Link. Alors, ce n'est pas un ERC-20, puisque la plupart du temps, on retrouve des jetons ERC-20 sur Ethereum. C'est un ERC-677. C'est une extension un petit peu plus pragmatique. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ce jeton, il a quand même une fonction qui est très importante pour le fonctionnement général du réseau. Par exemple, pour payer les nœuds. Les nœuds qui vont justement chercher les informations du monde réel, c'est-à-dire off-chain. Mais aussi le fait de faire passer ces informations pour qu'elles soient lisibles et compréhensibles par la blockchain. Et puis tous les calculs aussi qu'ils vont devoir faire off-chain. Mais aussi, le jeton, il va aussi servir au niveau d'une incentive et aussi d'un sentiment de conscience. Pourquoi? Parce que certains nœuds, certains oracles, vont en fait essayer d'avoir un maximum de links pour prouver qu'ils donnent des informations qui soient correctes. Et donc, finalement, il pourrait être sanctionné, un oracle qui donnerait des informations qui ne sont pas correctes, en link. Donc, on pourrait le sanctionner en lui faisant perdre des links. Et ensuite, pourquoi est-ce que le projet est bien positionné en ce moment? Eh bien, parce qu'il y a vraiment une demande de la tokenisation, tokeniser des actifs du monde réel, tokeniser de l'immobilier, tokeniser de l'or. Et on a besoin de données du monde réel, justement, pour pouvoir faire de la tokenisation. Et ils ont fait des partenariats stratégiques avec Mastercard ou encore avec JP JP Morgan.
Voilà pour la réponse. Je vous ai vu prendre des notes, mais on n'a plus le temps, Enzo Allo, ce qui veut dire que peut-être on pourra revenir sur cette question la prochaine fois et la compléter. Merci à tous les deux, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine, d'être venu dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business.